histoire d'État plâché, Laurent Belay.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc en pleine semaine pour une émission un peu particulière puisqu'elle sera consacrée entièrement aux transferts qui auront lieu durant l'intersaison. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on retrouve Théo.
Bonsoir.
Également Charles.
Salut Max, bonsoir à tous.
Et aussi Alex.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, cher commissaire. Bien, alors, l'actualité des transferts, en fait, a commencé depuis bien longtemps et même bien avant la date officielle du 1er août qui permet, en fait, de les valider. Elle a animé une bonne partie, en fait, déjà de l'été. On savait déjà certaines choses et ce que je vous propose déjà, pour commencer, eh bien, c'est de faire un point sur les gros coups qui ont été réalisés durant ce mercato, c'est-à-dire de revenir sur les grands noms, les principaux coureurs qui ont changé d'équipe, qui vont changer d'équipe, pardon, durant la saison 2020. Voilà, alors bien, Charles, si tu veux commencer.
Ouais, comme tu l'as dit, Max, on va commencer par évoquer les gros coups. Et pour moi, la première chose que je retiens de ce mercato, c'est la signature de Tom Dumoulin, dont le contrat n'était pas fini avec le team Subweb et qui rejoint la Jumbo Visma, qui va devenir une espèce de vrai dream team capable de concurrencer le Ineos et UAE. Et je pense que c'est le vrai gros transfert de ce mercato. Je ne sais pas si les gars seront d'accord avec moi là-dessus.
Oui, Théo, par exemple.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Tom Dumoulin qui a fait une année vraiment en demi-teinte, c'est même plus qu'en demi-teinte à cause de son accident. C'est le gros transfert et surtout, on a enfin une équipe qui semble même de rivaliser avec l'ancien Team Sky et le Team Ineos parce que dans le même temps, Jumbo a perdu aucun de ses grands coureurs. Donc c'est un peu frustrant en fait de voir que tant de coureurs vont être dans les mêmes équipes donc vont pas forcément rentrer en concurrence, mais dans l'autre temps on peut vraiment avoir l'espoir d'avoir un Tour de France qui va continuer à être disputé et continuer à avoir de l'enjeu dans les années à venir.
Oui, Alex, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Ouais, c'est vrai que lorsqu'ils ont annoncé la signature de Dumoulin, je me suis dit allez, ils vont lâcher quelqu'un, peut-être Roglic va partir vu qu'il est pas néerlandais. Je me suis dit, allez, mais là, c'est vrai que si le Slovène reste, ça va vraiment faire une équipe très, très dure à manœuvrer. Et c'est vrai qu'après Ineos, ça fait vraiment un deuxième gros morceau. En attendant, d'ici quelques années, peut-être UAE, quand leurs jeunes seront arrivés à maturité. Mais c'est vrai que ça va être deux épouvantails sur le prochain tour, notamment. Et il y aura une sacrée bagarre.
Oui, alors c'est l'un des grands noms, mais c'était quand même pas le seul. Il y avait un transfert qui était annoncé depuis très longtemps, qui a été officialisé à ce moment-là récemment, mais c'était pratiquement un secret de polichinelle, c'est celui de Nibali vers Trek. Nibali va peut-être finir sa carrière dans cette équipe, selon toi, Théo?
Effectivement, alors, on a entendu parler pendant tout Giro et on voyait que les montants du salaire Nibali, du salaire de Nibali qui filtrait évoluaient en fonction de ses performances sur le Giro. Je pense qu'effectivement il a réussi à choper un dernier gros contrat. Il a signé pour 2 ans, non, si je ne dis pas de bêtises, dans une équipe où il y a pas trop de pression. Il va pouvoir continuer à se faire un calendrier vraiment centré sur ses objectifs. Je ne pense pas qu'on va revoir un Nibali actif toute la saison. Mais je pense qu'il peut encore jouer le podium sur le Giro. Pour le Tour de France, ça me semble terminé. Mais je trouve que Trek, c'est une équipe qui lui va bien. C'est une belle équipe du World Tour où il y a quand même une espèce de, de culture italienne qui perdure. Il y a quand même des bons coureurs italiens. Et c'est une
Et
belle
des
équipe.
retraités.
Et des retraités, effectivement, ils continuent un peu la litanie. Ça va être.
Pardon?
Ils
Et
continuent
des
la litanie
retraités.
des champions qui ont terminé chez Trek. Ça rappelle un peu Contador en
Ouais.
2017.
Oui, mais bon, c'est une équipe qui était un peu quand même en difficulté hein, ces dernières années, en tout cas au niveau World Tour, qui a un peu de mal à la mettre au fond, quand même globalement. Elle est un peu en retrait. Alors, à voir si l'arrivée de Nibali et de ses fidèles arrivera à changer la donne. On peut aussi évoquer, tu l'as fait toi-même brièvement, hein, le transfert on a le transfert de Benoît chez Sunweb qui, en fait, va rééquilibrer peut-être l'équipe un peu différemment et puis permettre à d'autres coureurs typés classement généraux de jouer leur carte hors du moulin. Donc là, Benoît, lui, arrive pour renforcer le pack flandrien. On avait déjà Matthews qui commençait à s'habituer à ce terrain. On a une équipe maintenant vraiment tout terrain. Qui va peut-être sortir un peu du moulinot dépendance, Charles?
Ouais, on va avoir une équipe qui va, comme tu l'as dit, être un peu moins dépendante de Tom Dumoulin, avec des mecs capables de performer sur les classiques, comme Tiche Benoît notamment, qui va avoir un peu de soutien, puisqu'il récupère aussi Jascha Sauterling et Nico Denz, qui devrait aussi être assez utile, je pense, au sein de l'effectif. Et puisque tu parlais de Benoît, ça permet de faire la transition avec la Lotto Soudal, qui perd l'un de ses leaders, mais qui récupère deux gros coureurs. Avec John Degenkolb et Philippe Gilbert. Alors, ce n'est pas forcément les plus grosses recrues du marché des transferts, parce que Degenkolb, malheureusement, vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix, mais qui, depuis son accident, a quand même quelques difficultés à revenir au plus haut niveau et qui va tenter de se relancer. Et Philippe Gilbert, bon, il a encore prouvé aujourd'hui qu'il avait de très beaux restes, et il faudra voir s'il est capable d'être aussi fort en dehors de la Deceuninck Quick-Step.
Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Alex?
Bah, disons que ils ont quand même perdu, en plus de Dumoulin, un jeune comme Kamna qui était prometteur.
Oui, il commence à montrer de belles choses cette année,
Ouais.
ça va.
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, de très bons jeunes qui arrivent chez Sunweb, mais pour moi, je pense qu'ils ont perdu pas mal quand même sur ce mercato.
Mais Sunweb, ça a l'air d'être une équipe assez rigoureuse avec un encadrement assez fort. Il y a pas mal, enfin même Dumoulin s'en est plus. Il y a pas mal de coureurs qui semblent être un peu lassés. C'est un peu aussi ce que laissait transparaître Barguil. Bon, ça fait déjà 2 ans et l'équipe marchait très fort à cette époque. Les équipiers n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de chance chez Sunweb et enfin quelqu'un comme Lennard Kamna a peut-être vu plus d'opportunités chez lui chez Bora. Après, c'est pas plus mal pour Sunweb de se concentrer juste sur quelques leaders et ils sont bons pour développer des jeunes. Donc avec ceux qui arrivent chez eux, on pense à Arensman qui avait terminé deuxième du Tour de l'Avenir l'an dernier. Peut-être que dans quelques années, on aura de nouveau plusieurs leaders de GT chez Sunweb.
Très bien. Alors, on me signale des petits soucis techniques, apparemment des petits bugs, un petit problème au niveau de la transmission, de la diffusion, je ne saurais pas trop dire. J'espère que néanmoins la qualité vous permet de bien suivre l'émission tout de même. Parmi les autres noms, on pouvait aussi retenir celui de Mikel Landa, hein, Bahrain Troc, donc Nibali contre Landa. Ma question, c'est savoir pour qui il ira ne pas l'arbiner cette année. Enfin, c'est un peu délicat. Je ne sais pas vraiment comment tourner cette question, à vrai dire. Alex, tu peux peut-être m'aider.
Bah, c'est vrai qu'on attend toujours la signature du gros leader qui va aller chez Bahreïn. Non, plus sérieusement, pour lui, c'est vraiment l'opportunité de montrer ce qu'il vaut hein, cette année. Enfin, l'an prochain, il ne pourra pas dire que justement qu'il sera un petit peu que son, on va dire son leadership sera gâché par d'autres coureurs à côté. Là, vraiment, il a les coudées franches pour faire de belles performances. À voir encore qui c'est qui va venir l'aider, justement. Bon, il y a Bilbao qui n'a pas été encore annoncé, mais qui devrait être dans sa garde rapprochée. À voir ce que ça donnera. Mais c'est vrai qu'on devrait logiquement voir un Mikel Landa, on va dire, bien figuré l'an prochain dans les grands tours.
Après, Mikel Landa, lors de sa première année de contrat, généralement, c'est pas là où il est le meilleur. Donc, parce qu'il y a eu une année où il a eu les coudées franches chez Sky, mais il s'est planté. Donc bon, on verra, sachant qu'il risque de perdre aussi, enfin un coureur de Bahreïn qui a eu un accident, Domenico Pozzovivo, et qui est, ben, vu la gravité de l'accident et son âge, ça sent un peu la fin de carrière. Donc au-delà de Nibali, il perd aussi un des meilleurs équipiers en montagne du World Tour.
Oui, à voir si comment il reviendra. En tout cas, il s'est remis au vélo il n'y a pas longtemps, hein.
Ah, bah, bonne
J'ai
nouvelle.
vu des images plutôt rassurantes, en tout cas sur l'état de santé de Domenico Podelivo. Et puis, on peut penser peut-être qu'à ce moment-là, l'équipe lui proposera quand même un contrat, d'autant plus qu'il a toujours, en général, joué le jeu, hein, chez Bahreïn. Voilà, donc comme ça on termine avec des nouvelles plutôt rassurantes sur lui. D'autres coups dont vous pouvez parler, bah, éventuellement, moi ce que je retiens c'est surtout celui réalisé par Ineos, hein, qui engage quand même le dernier vainqueur du Giro. Un leader de plus, un leader de trop, Charles?
Non, pas forcément. Enfin, moi, je répète depuis quelques mois que Richard Carapaz fait un excellent choix en allant chez Ineos. Je pense que l'horizon était plus bouché pour lui chez Movistar au moment où il a signé, parce que bien sûr, maintenant, il y a aussi d'autres coureurs qui sont partis. Mais on l'a vu sur le Giro, il y avait des opportunités. Si Richard Carapaz avait été chez Ineos cette année, il aurait eu le leadership à la place de Pavel Sivakov. Sur le Tour, bien sûr, c'est pas possible l'an prochain. Sur la Vuelta, on voit qu'il n'y a aucun coureur de cette équipe qui est capable de faire un top 10 à la pédale. Donc pour moi, il y a des opportunités pour Carapaz. Ce ne sera pas sur le Tour, forcément, en tout cas pas la première année, mais je pense qu'il pourra doubler Giro Vuelta l'an prochain. Et par la suite, Geraint Thomas et Chris Froome sont plus sur la fin que le début de leur carrière. Donc je pense qu'il aura des opportunités et qu'il a fait un très bon choix en quittant la Movistar et ses errances tactiques
Ouais,
récurrentes.
je suis tout à fait d'accord avec toi, Charles. En plus, Carapaz, ça fait longtemps des interviews qu'il insiste sur le fait que le Tour de France, c'est pas tout pour lui, qu'il adore vraiment le Giro. Et je pense que quand il signe chez Ineos, bah, en dehors du salaire, qui effectivement doit être assez énorme, et il doit se mettre à l'abri et mettre à l'abri sa famille pour pas mal d'années, c'est le fait de pouvoir être leader sur le Giro avec une grosse équipe. À mon avis, il n'y attendait pas plus. Et surtout, enfin. Il a signé, je pense qu'il a signé, il a signé assez tôt, et ça lui a permis le fait de ne pas faire la Volta à cause de sa bêtise avec la Movistar, enfin la fin de l'histoire qui semble être un peu en eau de boudin. Enfin, pour vous rappeler, en gros, la Movistar pensait qu'il s'entraînait chez lui ou qu'il était en Espagne, et en fait, il était aux Pays-Bas, faire des critériums, il est tombé. Je pense aussi le fait que d'avoir signé assez tôt, ça lui a permis, voilà, de pas forcément s'impliquer beaucoup à la fin de son contrat et de pouvoir faire des critériums pour gagner un peu plus d'argent. Donc c'est encore un bon coup de la part de Carapaz et un bon coup qui a été réalisé peut-être grâce à son agent aussi, hein.
Ouais, puis il faut signaler que Carapaz avait un salaire très très faible chez Movistar par rapport à son statut. Donc quand on sait que les critériums rapportent, peut-être aussi qu'il s'était dit que bon, ça pouvait faire du bien d'aller glaner quelques milliers d'euros à droite ou à gauche. Je crois que c'était 20 000 euros si je me trompe pas, mais je dis peut-être des bêtises, donc je vais pas être trop certain de ce que j'avance.
C'est vrai que Movistar a profité du fait qu'il était équatorien et que pour lui, c'est une opportunité pas refusée, on va dire, d'aller courir dans une World Tour européenne. Donc, il avait commencé avec un salaire qui, effectivement, correspondait vraiment au talent, même déjà, qu'il pouvait laisser montrer à ce moment-là. Alors, écoutez, il y a encore d'autres noms, hein, qu'on pourrait citer comme ça à la va-vite. Ben, justement, Movistar perdant Landa, et puis on va évoquer le cas de Quintana un peu plus tard dans une partie spécifique sur les équipes françaises. Donc, la Movistar, ben, du coup, récupère Henrik Maas en leader pour les grands tours, à voir. Et puis la CCC qui continue son travail, hein, que souvent quand une équipe se crée au début, bon, bah, elle a l'effectif qu'elle peut, hein, en fonction des contrats et des gens qui sont libres. Là maintenant, elle commence un peu à travailler la tessiture de son effectif, et notamment avec Lousa Karine par exemple, ou Matteo Trentin. Mais je vous propose maintenant d'aborder rapidement aussi le chapitre des jeunes qu'on risque de découvrir cette année, donc dans ces grandes équipes World Tour. Pardon, Théo, donc tu voulais dire?
Ouais, enfin, je voulais juste casser un tout petit peu le plan, mais pour parler de la Movistar, on peut quand même parler d'un phénomène. Enfin, on a vu que le mercato était assez étrange, ils n'ont pas recruté beaucoup d'Espagnols, et on a pu comprendre en lisant la presse que c'est parce qu'ils étaient en désaccord avec un agent.
Et je
Donc,
comptais ouvrir un petit chapitre sur la
okay.
footballisation du marché des transferts, hein, après, si ça ne te dérange
Ok,
pas,
bon,
Théo,
on en parlera
justement.
après
Non,
alors.
non, mais il n'y a pas de problème, tu Je pouvais ne pas le savoir parce qu'en fait, j'ai tilté au moment même où j'en parlais, en même temps que toi. Je me disais, tiens, il faudra qu'on parle de ça. Tout à fait. Mais donc, on va revenir sur les jeunes. Et donc, rapidement, donc à ce moment-là, oui. Alex, je te propose de lancer avec eh bien, un petit protégé d'Astana bon, qu'on attendait logiquement dans leur équipe, à savoir Alexandre Vlasov.
Ouais, c'est pas le, on va dire l'année plus jeune, mais c'est vrai que il aura 24 ans l'an prochain. C'est, je pense, pour lui l'opportunité de vraiment se révéler sur les grands tours, puisqu'il va certainement faire le Giro la saison prochaine. Voilà, il a confirmé cette saison après avoir remporté, on le rappelle bien sûr, le Giro U23 en 2018. Là, il a été très constant tout au long de l'année, plusieurs podiums, une victoire sur le Tour d'Autriche, il est champion national. Et il a vraiment le profil du coureur qui risque de performer dans le futur sur les grands tours. Et lorsqu'on veut performer sur les grands tours, ben, il y a quelques équipes, il y a Movistar, il y a Ineos ou Astana notamment, qui voilà, est spécialiste dans la chose. Donc, je pense vraiment, pour moi, il risque de se révéler, on va dire, encore plus aux yeux du grand public l'an prochain. Oui.
Très bien. Charles, tu avais également des noms à nous proposer ?
Ouais, quelques noms. Bon, il y en a énormément, donc on ne va pas citer tout le monde pour ne pas faire trop liste. Mais d'abord, je voulais juste rappeler ou indiquer à tout le monde qu'Alex a fait une super interview de Vlasov justement que vous pouvez retrouver sur le site dans la partie dédiée aux interviews des coureurs. Ouais. Et ouais, moi je voulais plus parler des Sud-Américains. Je vais en citer deux, à vrai dire, pour être assez rapide, ceux que je pense qui ont le meilleur potentiel. Donc Alexander Cepeda tout d'abord, qui a signé 4 ans chez Androni. Et là, Max, tu veux parler tout à l'heure de la footballisation, on est en plein dedans, à l'achat-revente, on donne un très long contrat à un très jeune coureur dans l'espoir de le revendre après à une équipe du World Tour. Donc Cepeda, pour faire vite, c'est un coureur équatorien qui est né en 98, si je ne me trompe pas, qui a brillé dès le début de l'année en remportant 2 étapes de la Vuelta Mendoza en Argentine, après qui a été très bon, 2e derrière Carmillo Ardia du chrono Escalada de la Vuelta Juventud, et qui a été encore très bon ensuite en Amérique du Sud, puis qui a remporté en échappé la dernière étape du Tour de l'Avenir. Donc pour moi, c'est vraiment le successeur de Carapaz chez les Équatoriens. Et pour aller vite sur Camilo Ardia, donc le grand espoir colombien, impressionnant aussi depuis le début de l'année, qui a écrasé le Baby Giro au mois de mai, au mois de juin, mai ou juin, Max, je ne me rappelle plus.
Le Baby Joe, c'est au mois de juin.
Au mois de juin, pardon. Et du coup, malheureusement, il était forfait parce qu'il avait une blessure au genou, je crois, pour le Tour de l'Avenir. Donc, on n'a pas pu le voir. Mais il a signé chez UAE Team Emirates. Et là aussi, on l'attend très, très fort, je pense, dès la saison prochaine.
Très bien. Et toi, Théo ?
Moi, je voulais parler d'un coureur qui a signé aujourd'hui pro chez Education First, c'est Stéphane Bisseger. Alors, il n'est pas, c'est pas le même profil, ni même, peut-être même le même potentiel que le coureur dont vient de parler Charles, mais c'est un coureur très intéressant. Il a déjà gagné chez les pros cette année sur le Tour de l'Ain. La première étape du Tour de l'Ain, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un sprint un peu bizarre avec un virage assez étrange. Et il a pris le virage, je ne sais pas, à 70 km/h. Il a réussi à tenir jusqu'à la ligne. C'est un coureur assez complet qui a l'air d'avoir un très gros moteur parce que c'est avant tout un rouleur qui arrive à se faire des places dans des arrivées massives, qui passe aussi pas mal les bosses. Il a terminé 18e du Tour de l'Avenir. Bon, il était bien placé après le contre-monde par équipe et bon, il ne pouvait pas jouer à gagner en montagne, mais on a vu que même dans des échappées avec des coureurs qui faisaient peut-être 20 kg de moins que lui, il arrivait à tenir assez longtemps. Donc j'ai toujours, je trouve ça toujours intéressant de voir des coureurs assez polyvalents arriver au plus haut niveau mondial parce que il laisse transparaître plein de promesses, mais voilà, les coureurs, on sait que les coureurs 4x4, ça peut être un peu une difficulté pour eux des fois de voilà, ils sont trop polyvalents, il va falloir qu'ils trouvent un domaine dans lequel s'exprimer. Peut-être pour lui les classiques, mais on verra bien. À voir aussi, si, quand on est un espoir signé chez EF, c'est pas forcément l'assurance, une assurance tout risque.
Oui, c'est pas l'équipe la plus connue, en tout cas pour faire bien développer leurs jeunes. Oui, bien écoutez, vous avez cité des gens à potentiel intéressant. On pourrait rajouter, bien écoutez, moi je pensais par exemple à McNulty qui a signé chez UAE.
Tobias Foss aussi d'ailleurs, on parlait du renforcement de la Jumbo-Visma, le vainqueur de l'avenir, Tobias Foss qui rejoint aussi Jumbo. l'an
Oui.
prochain.
Voilà. Potentiel intéressant également. McNulty, ben, chez UAE, au début de l'année, vous m'auriez dit ça, j'aurais été un peu dubitatif, mais finalement, Pogacar a bien prouvé qu'on peut être très vite apposé au sein de cette équipe. Donc, à voir. C'est un coureur qui a montré déjà de petites choses cette année au sein de la Rallye UHC. Donc, j'attends une confirmation l'année prochaine. Voilà. Qui on aurait pu citer également? Caden Groves, le
Ouais, le
sprinter.
très bon sprinteur australien qui vient de l'équipe SEG qui forme énormément de jeunes, hein, encore plus qu'Axéon, j'ai l'impression, ces dernières années. Il y a aussi Dainese qui a signé un contrat. Il y a Timen ou Timen, désolé Daniel, je ne sais pas comment on dit, Arensman, qui est aussi bon, qui a eu des soucis cette année. Et il y a un quatrième coureur qui a signé, c'est Barnabas Peake d'ailleurs, qui a signé aussi chez Mitchelton Scott, tout comme Caden Groves. Donc, de très bons coureurs chez eux. Hein.
Voilà, bon, de toute façon, la liste n'est vraiment pas exhaustive, hein. Il y a chaque année voilà, beaucoup de néo-pros qui arrivent. Savoir qui va percer, ben, ça dépend aussi un peu dans quel effectif ils se retrouvent et puis quels seront leur rôle là-dedans. On m'a demandé donc de parler par exemple de Bagioli ou d'Ainese, les deux jeunes Italiens. Donc Bagioli, lui, est un grimpeur. Il arrivera chez la Quick-Step. Je le vois par exemple plus facilement faire un travail d'équipier pour des Evenepoel ou etc. Alors qu'un Ainese risque de se mettre beaucoup plus facilement en avant parce que c'est un sprinter tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense que maintenant on va ouvrir le chapitre qui risque d'intéresser le plus nos éditeurs, à savoir celui des équipes françaises. Et avant toujours, pour commencer, bien, j'aimerais remercier l'un de nos auditeurs, forumer de VCN, Pionix, un fidèle suiveur de l'équipe Cofidis qui nous informe d'une exclusivité, puisque David Delacruz a signé pour 1 ou 2 ans, c'est encore ça en discussion, mais en tout cas c'est sûr, il a signé chez Cofidis pour l'année prochaine. Voilà, donc encore un renfort supplémentaire pour Cofidis. Du coup, c'est peut-être l'occasion de commencer par cette équipe, c'est plus simple. Cofidis qui, cette année, fait partie des équipes qui ont marqué un grand coup sur ce mercato. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, même déjà avant l'affaire de la Cruz, n'est-ce pas Charles?
Ouais, d'ailleurs, Psyonix nous informe, enfin nous précise que c'est pas encore fait, qu'il y a un accord sur le salaire, mais qu'il n'y a pas d'accord, enfin que ça bloque sur la durée. Du coup, si je résume bien ce qu'il explique sur le chat. Ouais, donc l'accord, enfin
C'est jamais.
la signature serait pas encore faite. Mais bref, ouais, Cofidis qui fait un énorme recrutement. Elia Viviani, d'ailleurs, le champion d'Europe, qui est enfin, peut-être le meilleur sprinteur du peloton, qui va en plus être accompagné par l'un de ses poissons pilotes préférés, Fabio Sabatini, et un sprinteur qui est aussi très rapide, Simone Consoni, qui est vraiment très bon, très prometteur. Donc, je pense que ce trio-là peut vraiment faire des merveilles chez Cofidis, qui a vraiment, vraiment, comme je l'ai dit, effectué un très bon recrutement avec aussi Guillaume Martin. Bon, moi, je pense pas que Guillaume Martin, par contre, fera dans le top 5 du Tour de France. Ça me...
Ah, c'est prévu, c'est prévu.
C'est prévu, mais je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Ou peut-être si on est très bon à Pro Cycling Manager, ça peut être le cas, mais sinon dans la vraie vie,
Pour faire des stages avant, du coup.
enfin, voilà, je vois ça compliqué. Mais Delacruz, si jamais ça se fait, par contre, c'est très bien parce que autant pour une grosse World Team, je pense que Delacruz c'est pas un bon plan, mais pour une équipe comme Cofidis qui va arriver en World Tour, je pense que ça peut apporter de la densité à l'effectif et il peut briller sur des courses World Tour par semaine comme le Pays Basque, comme la Catalogne, etc. Enfin, il va apporter de la profondeur, je trouve, à l'effectif et c'est plutôt une
Un
bonne
peu comme
chose. Et...
l'a fait Errada
Ouais, et
en
ça me
passant
permet
Mobistar
de...
à Cofidis, où ils l'ont un peu bonifié d'une certaine façon parce que tout simplement il s'est retrouvé plus haut dans la hiérarchie. Là aussi, Delacruz pourra jouer sa carte bien plus souvent.
Ouais, carrément. Et ça me permet de clôturer avec Nathanas, du coup, qui, pareil, pour moi, enfin, je sais que son recrutement a été un peu critiqué sur le forum et sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut partir du postulat qu'en fait, Nathanas, c'est pas un leader et il n'est pas recruté pour être un leader. En fait, il va encore une fois amener juste un petit peu de densité à l'effectif. Et il va être capable de briller sur un Tour Down Under, sur une Cadel Evans Race, etc. Enfin, toutes ces courses où la concurrence est vraiment moindre et où il n'y a pas forcément de coureurs qui sont motivés ou prêts à faire un top 10. Et là, je pense que Nathanas, dans ce rôle-là, va être utile, que sur les Coupes de France, de toute façon, il aura un niveau suffisant pour aussi briller ou aider d'autres coureurs. Et le reste de la saison, il sera un équipier modèle. Et enfin, bref, je trouve que le recrutement de la Cofidis est pour l'instant très intelligent.
C'est un coureur qu'on voit pas beaucoup, mais quand on il a tendance à toujours revenir un peu sur les mêmes courses. Et on sait du coup là où il va marcher assez souvent. En tout cas, il y a des périodes de l'année comme ça, notamment les Canadiennes, par exemple, qui réussissent pas trop mal. Voilà, est-ce que vous par exemple, excuse-moi, Alex, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la Cofidis?
Non, Charles a très bien dit pour As, voilà, si Cofidis aspire au World Tour, il faudra être visible tout au long de la saison. Et pour les courses australiennes, il n'y avait personne. Il y a Nathan As, on va dire, lorsqu'il est en forme, généralement, on performe bien à cette période-là. Donc je pense qu'il n'a pas dû coûter cher. Donc c'est une bonne chose. Après, voilà, pour l'instant, c'est solide. Il me faudrait encore peut-être un ou deux grimpeurs s'ils peuvent. Mais voilà, petit à petit, ils sont en train de former une très très belle équipe.
Très bien. Alors, je vous propose rapidement revenir sur les deux équipes World Tour. On va dire, en résumé, peu ou pas de changement hein, pour rester dans une forme de continuité finalement hein, pour FDJ et AG2R, si je devais résumer tout cela en une phrase. Tu es assez d'accord là-dessus, Théo?
Oui, bah Groupama, je pense que la majeure partie de l'augmentation du budget qui est arrivée avec le nouveau sponsor Groupama, elle a été prise par l'équipe réserve et par la prolongation de Pinot, Desmarest, Gaudu. Par contre, bon, effectivement, ils sont pas du tout actifs sur le marché des transferts. Il y a quand même des historiques de l'équipe qui vont partir avec Morabito et surtout Vaugrenard. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Cyril Barthes va signer. C'est pas mal, ça permettrait à l'équipe d'exister sur les Coupes de France et les courses de ce type, parce que quand ils alignent pas Madouas, il n'y a pas grand monde. Par contre, effectivement, le problème pour les Groupama, c'est qu'ils n'ont pas remplacé Preidler. Ce qui était peut-être enfin, le principal manque de l'effectif, c'est voilà un grimpeur capable de seconder Pinot. Si jamais bon, on imagine que Gaudu prend plus d'indépendance, il a peut-être manqué quelqu'un dans l'équipe de Pinot. Mais bon, peut-être que Gaudu va encore courir avec son leader l'année prochaine. Et dans ce cas-là, effectivement, l'équipe sera légère sur un GT. Mais bon, la Groupama, elle s'en fiche de pas avoir d'impact sur la Volta, quoi.
D'ailleurs, ça me permet de rapidement faire une petite parenthèse. Apparemment, donc Thibaut Pinot aurait indiqué qu'il mettait un terme à sa saison. Donc, on ne le reverra pas sur le Tour de Lombardie pour défendre son titre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, notamment sur l'équipage AG2R, je ne sais pas, Alex, par exemple?
Ben, les 2 heures, on va dire. Bon, bien sûr, ils ont fait venir le frère d'Oliver Nyssen, Laurens Nyssen. Ça, c'est, je pense, pour que son frérot soit bien dans l'équipe. Sinon, ben, Andrea Vandramme, hein, qui à 25 ans a fait une très très belle saison chez Androni, qui pourrait, je pense, peut-être franchir encore un cap l'an prochain. C'est une bonne recrue pour AG2R, je pense vraiment. Ah, ouais.
Oui, mais c'est un coureur déjà qui connaît bien les courses françaises parce que
Ouais.
depuis 2 ans qu'il est chez Androni, Androni l'a envoyé pratiquement systématiquement sur leur calendrier français. Donc, à voir si AG2R conserverait la même politique, mais je pense que ce serait une très bonne idée de le faire se spécialiser sur les Coupes de France, par exemple. Voilà, c'est
Mais
quelqu'un qui pourrait faire de nombreux top 10.
on rappellera qu'il a gagné cette année le Trobroléon notamment.
Voilà. Donc oui, tu peux peut-être rajouter une dernière chose sur AG2R,
Ouais, sur Clément Champoussin quand même, du coup ça me paraît intéressant de signaler son recrutement parce que c'est le meilleur coureur français cette année dans les rangs espoirs. Donc c'est bien qu'il puisse passer chez les pros. Il est d'ailleurs leader du Tour du Frioul qui se dispute en ce moment en Italie. C'est un vrai bon coureur, un grimpeur. Donc c'est bien de le voir passer. Et juste une petite déception pour moi. J'aurais aimé voir Nicolas Prodhomme aussi passer l'an prochain chez AG2R. Et je trouve qu'il a le niveau. Et malheureusement, ça sera pas le cas. Et j'espère qu'il trouvera une autre équipe de première ou de deuxième division.
Ah, tout à fait, parce que bah, écoute, là tu me l'apprends, tu vois, parce que j'avais pas tout à fait regardé exactement ce qu'il allait devenir, mais quand je voyais ses résultats cette année, je me faisais pas trop de soucis pour lui. Donc je suis un peu étonné que personne n'ait pensé, enfin n'ait contacté encore. Oui, donc les fans, les suiveurs de ces deux équipes sont peut-être un peu déçus hein, de voir qu'il n'y a pas eu de renforcement notable. Dans ces équipes, mais il faut savoir aussi que c'est surtout des équipes qui quand même s'inscrivent dans la longue durée lorsque elles voient leur évolution. Chez FDJ, on ne se débarrasse pas comme ça des coureurs qui donnent satisfaction. On re-signe encore de l'âge, par exemple, pour une année. parce que bah, voilà, c'est un fidèle de l'équipe. Il faut rappeler que Vaugrenard, cette année, arrête après 17 ans de bons et loyaux services à la FDJ. Et à G2R, c'est un peu la même chose, en plus avec un peu la remise en question pour Bardet de sa saison. Je pense que voilà, ils étaient peut-être un peu limités pour une prise de risque. Est-ce que vous partagez la déception, on va dire, de la plupart des fans de ces deux équipes, aimer voir des renforts plus ronflants, on va dire. Je vais te lancer là-dessus, Théo.
Bah non, bah c'est un peu la même chose que ce que j'avais dit pour la Groupama. C'est pas des équipes qui ont des budgets énormes. Et ben on sait, enfin dans ces, je trouve ça plus rassurant en fait de voir que ben, ils conservent le même effectif avec ben, leurs forces, leurs faiblesses, plutôt que de voir arriver 5 mecs dont la moitié sont des paris, donc tu connais pas vraiment le niveau. Enfin, quand tu veux jouer la gagne sur des grands tours, il vaut mieux pouvoir compter sur des hommes que tu connais en qui t'as confiance.
Oui, surtout que bon, normalement, ça se passe pas si mal quand même pour ces deux équipes dans l'ensemble. Très bien. Est-ce que vous vouliez encore rajouter quelque chose on peut peut-être passer à l'équipe suivante. Je comptais vous parler de la Total Direct Energy, qui a été bien plus discrète que Cofidis. Alors, je ne sais pas si c'est dû à des raisons aussi, tout simplement, hein, de budget, ou à une position avantageuse dans le classement des équipes qui fait que de toute façon, elle est pratiquement garantie de pouvoir faire les courses qu'elle voudra l'année prochaine. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Finalement, l'équipe conserve ses cadres, donc c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu peux en dire, Charles ?
Bah, que c'est un recrutement qui n'est pas clinquant, si on peut le dire comme ça, mais qui pour moi c'est efficace. Ouais, je vais dire efficace. Hein. Dries Van Gestel, c'est pas le meilleur coureur du monde, mais c'est un coureur qui va aider, notamment Niki Terpstra, je pense. Quant à Julien Simon, il sera utile aussi dans un rôle sur les Coupes de France, et Lorenzo Manzin est meilleur pour moi que des gars comme Thomas Bouda. Donc, enfin, pour moi, c'est pas des recrues énormes, si je peux résumer, mais ils apportent une plus-value à l'effectif par rapport à d'autres coureurs de Direct Energy qui, je pense, sont beaucoup moins performants que ces trois recrues-là.
Théo ?
Oh bah je suis d'accord, l'effectif s'améliore un peu. Après Direct Energy, ils ont toujours des coureurs bizarres. Tu sais pas pourquoi Brian Nowo est toujours là. Enfin, en fait, on sait pourquoi. Mais bon, ça reste quand même dommage parce qu'il y a des mecs. Par exemple, aujourd'hui, on a appris que Jérémy Cornu. Jérémy Cornu allait arrêter sa carrière. Parce que bon, c'est un coureur qui, quand même, gagnait des classes 2. Bah, dans une équipe comme Direct Energy, c'était pas mal. Il n'a pas été conservé l'an dernier et cette année, chez les amateurs, ça se passe pas bien. Tu as souvent des coureurs, je me souviens aussi, c'était il y a plusieurs années, mais un coureur comme Vincent Jérôme n'avait pas été conservé. Il y a toujours des choses bizarres des fois dans cette équipe. Mais bon, après, je ne m'inquiète pas vraiment pour eux. C'est une bonne équipe de deuxième division et ça risque de rester une bonne équipe de deuxième division.
Ok. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez aborder un autre sujet parmi les équipes françaises? C'est vrai que j'ai pas parlé encore de la Delco, mais c'est une équipe un peu en dessous de toute façon niveau budget et niveau transfert aussi. Oui, Charles.
Ouais, on peut juste, avant d'évoquer le dernier morceau, passer rapidement, comme tu l'as dit, sur Delco, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La seule rumeur qu'on entend, c'est Dusan Rajovic, le très bon sprinter serbe d'une vingtaine d'années qui pourrait les rejoindre. Vital Concept, il n'y a rien à dire. De toute façon, on ne va pas les enfoncer, oui. C'est pas le but. Il n'y a aucune recrue, donc il n'y a pas grand-chose à discuter. Et pour finir...
Ils ont gardé Cocard, c'est déjà ça.
Ils ont réussi à garder Cocard, c'est déjà ça. Et le problème, c'est comme on disait en début d'année, il y a tellement d'équipes françaises aussi qui... le marché des coureurs français n'est pas non plus extensible à l'infini, même au niveau Conti Pro. Donc à un moment,
Ouais, bon après.
Après il est extensible, mais il faut trouver les bons noms quoi. C'est ça.
C'est ça. Le truc, c'est assez un problème de recrutement international. Mais le truc, c'est que pour l'instant ils ont annoncé aucune recrue et je vois pas quel coureur maintenant actuellement disponible permettrait de vraiment passer un palier. Enfin, il y en a pas.
Non, je pense pas. Donc on peut passer à. Ouais, vas-y.
Je voulais aborder justement le problème de la footballisation, on va dire, s'il faut résumer par une formule clinquante, la chose du marché des transferts de vélo. Mais si tu voulais rajouter encore une dernière chose.
Ouais, non, j'allais juste passer à Arkea parce que c'est le gros morceau qu'on a oublié,
Ah,
la
oui.
signature
Pardon, ouais, on a oublié complètement Arkea. Oui,
de
alors
Nairo
c'était. En
Quintana.
fait, c'est parce que j'avais mis cette équipe en premier. Et puis, l'exclu qu'on vient d'avoir a perturbé un peu le petit plan que j'avais préparé. Du coup, bon, je me disais bien, j'avais zappé une équipe et je n'arrivais
Du
pas à
coup,
savoir qui.
on va
Oui,
finir
qui a
cette
quand même.
partie bilan sur, enfin, des équipes françaises
Oui,
sur Arkea.
c'est vrai, on avait failli l'oublier. Oui,
Avec,
honte à moi, vas-y,
c'est
pardon.
pas très grave, t'inquiète. Avec Nairo Quintana, donc là, avec après Elia Viviani, la deuxième énorme signature des Conti Pro françaises. Donc Nairo Quintana, il vient pas tout seul. En plus, il vient avec son frère d'ailleurs, qui va revenir, qui va retrouver, qui était chez Nerissa Tsurli, chez Diego Rossa. Là, c'est un pari Diego Rossa parce que sa période Ineos a pas été bonne, même pas bonne du tout. Donc à voir s'il arrive à se relancer ou pas chez Emmanuel Hubert. Et puis Katmapey le précise, winner Anacona, vainqueur de la Vuelta San Juan en début d'année, et qui sera un très bon équipier en montagne pour son leader Nairo Quintana. Et on attend Nasser Bouhanni aussi normalement pour la mi-septembre, si j'ai bien compris. Donc pareil que Cofidis, un gros recrutement pour Arkea Samsic.
Mais à voir comment Nasser Bouhanni voilà, récupérera après une année un peu difficile à tous les niveaux, sportifs, humains, relationnels aussi avec son équipe. Apparemment, c'était passé un peu par
Et
un
comme le dit
collectif.
Feu, on attend de voir si Winner est un gagnant ou pas. Je félicite le jeu de mots, je trouve que c'est franchement chapeau.
Oui, ben, bon, ces dernières années un peu en retrait. Maintenant, dans une équipe comme Arkea, pour travailler pour Quintana, on va dire, il sait faire. Donc, je pense que là-dessus, pas de souci. En tout cas, ce pourquoi il aura été engagé, je pense qu'il devrait pouvoir y arriver. Voilà, donc, oui, ce que nous avons failli aborder donc, déjà plusieurs fois dans cette émission, c'est ce changement qui s'opère depuis 2-3 ans dans le marché des transferts, où non seulement les contrats se rachètent, mais deviennent aussi de plus en plus longs. Alors, ils sont plus longs, mais ils se rachètent. Donc, ils ont plus de valeur, mais ils se rachètent quand même. On engage des coureurs parfois à 17, 18 ans. On fait des pré-contrats avant de les faire venir dans les équipes. Enfin, tout ça ressemble effectivement un peu à ce qui s'est passé avec la libéralisation du marché dans le milieu du football. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut pour l'instant penser. Ça a permis à certaines équipes comme Androni et Gianni Savio, le malin Gianni Savio, hein, de bien se refaire la cerise, par exemple en vendant Bernal, hein, à la Sky. Mais je ne sais pas si à terme tout ça mènera pas quand même à une forme de course à l'échalote qui ne sera pas très bonne. On en a parlé aussi lorsque Evenepoel a gagné, lorsqu'on a parlé de l'éclosion de ces jeunes de plus en plus jeunes. Est-ce que ça ne va pas mener à quelque chose de dangereux pour certains, hein? Voilà. Donc c'est un vaste problème. Là, on va faire vraiment que l'aborder, hein, parce que je
Ouais, parce
pense
qu'on
qu'il
pourrait y
faut qu'il y ait
passer
une
une
émission.
demi-heure facile, là, je
Ouais,
pense, sur ce
vraiment,
gros
vraiment, il
problème
faut
des
qu'il y ait une
super
émission.
agents, comme on va le citer,
Voilà.
hein, Giuseppe Acquadro, qui, enfin, c'est pas lui en particulier, mais je trouve qu'il y a des personnages néfastes qui tournent de plus en plus autour du vélo, et c'est pas une très très bonne nouvelle.
Ouais, c'est un peu
Après,
la pluie et le beau temps, un peu plus la pluie en ce moment du côté de Movistar, mais c'est vrai que je pense que c'est que le début, hein. On va avoir dans le futur, je pense, de plus en plus de contrats rachetés, on va avoir des contrats de plus en plus longs, dans le but bien sûr d'avoir des indemnités plus importantes en cas de départ de coureur. Mais ouais, c'est pas très plaisant, mais malheureusement, je pense qu'on va y avoir droit dans le futur.
Je pense qu'il ne faut pas non plus, enfin, on parle de footballisation, on est clairement dans un autre monde. Il n'y a pas autant d'argent dans le cyclisme
Bien sûr.
que dans le foot. Enfin, la plus grosse équipe du monde, c'est Ineos, elle doit avoir quelque chose comme 35-40 millions d'euros de budget. Il y a pas mal d'équipes du championnat de France de première division qui ont plus que ça. Je crois même par exemple la Racing Club de Strasbourg doit avoir un budget dans ces eaux-là. La Racing Club de Strasbourg à l'échelle européenne, c'est peanuts. Malgré leur très belle victoire en Coupe de la Ligue. Donc bon, il y a quand même, il y aura, enfin, il y aura moins d'histoires de blanchiment d'argent, ce genre de choses. Un côté positif de la footballisation, c'est un sujet dont on parle de temps en temps. Je me rappelle de plusieurs prises de parole de Jérôme Ganas, c'est ben, peut-être on va enfin trouver un moyen de donner de l'argent aux équipes formatrices et aux équipes amateurs. Et aussi, enfin, ce que j'avais envie de dire, c'est que, ben, en fait, c'est pas nouveau. Enfin, Androni fait ça depuis plusieurs fois. Mais en fait, c'est le premier mercato où on a l'impression que les agents se sentent assez importants pour pouvoir s'étaler dans la presse et même utiliser la presse comme moyen de pression. Et vraiment plusieurs fois, on a eu le coup avec De La Cruz qui avait signé, et en fait, c'était pas fait. Même Quintana s'était sorti, et en fait, c'était pas fait. Ou Aguardo qui va dans la presse et qui explique que voilà, il veut pas laisser ses coureurs signer là,
Parce que
signer
c'était
là.
déjà lui qui était dans l'histoire de l'affaire Sosa l'année dernière. Par contre,
Oui,
son nom avait beaucoup moins filtré,
ouais. Mais
par
c'est même lui
exemple.
qui a fait Bernal aussi, non? Enfin,
Oui, c'est lui aussi, d'ailleurs.
il me semble aussi.
Oui.
Alors, en tout cas, c'est un agent qui sait reconnaître les
De toute
coureurs.
façon, c'est lui qui a Cepeda aussi. Enfin, c'est lui qui a tous les
Ouais,
jeunes sud-américains.
et
Enfin,
oui,
après, on va pas
tous les
s'étendre
jeunes
parce que
aussi,
sinon, on va faire une demi-heure dessus, mais.
voilà. Mais bon, ça permet quand même de faire une forme de transition avec le passage suivant. Bah, ce que je trouve déjà, c'est que néanmoins, en ces 2-3 minutes, vous avez résumé l'essentiel de la problématique. C'est bien. Et je pense que de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus lorsqu'on fera une émission sur le bilan final des transferts. Voilà. Donc, dernière partie, rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes, c'est éventuellement ben, les bons coups restants, qu'est-ce qui reste comme nom, voilà, comme opportunité pour certaines équipes, tiens, qui chercheraient des gens, et bien, écoutez, s'ils peuvent compter sur l'aide des commissaires, s'ils écoutent l'émission, ma foi, tant mieux pour eux. Après tout, on va leur donner quelques petits pense-bêtes. Alors, je crois que tu avais repéré deux trois personnes, il me semble, Charles.
Ouais, je vais essayer d'aller vite. De toute façon, en plus, j'ai fait un papier hier, donc vous pouvez le retrouver aussi sur le site. Donc, rapidement, le premier nom qui me venait à l'esprit, c'était celui de Travis McCabe, le coureur américain, grand oublié, je trouve, de la fusion l'an passé entre Rally et United Healthcare. Et je trouve que c'est un très bon sprinter. Il fait très peu de courses UCI, donc il n'a pas un nombre de victoires impressionnant. Mais pour ceux qui ont suivi un peu le Langkawi, on a vu qu'il savait aussi grimper quand il fallait, parce qu'il était en échappée, il a bien résisté, il fait top 10 du général. C'est un mec qui a de la bouteille en plus parce qu'il approche la trentaine. Donc pour moi, une recrue solide pour une équipe Conti Pro qui chercherait un gars à 5-6 victoires par an avec un calendrier conséquent. On voit que des équipes comme Vital Concept, etc., n'ont pas encore recruté. En plus, Travis McCabe, je pense qu'il serait absolument ravi de signer au minimum salarial en Conti Pro. Donc pour moi, ça pourrait être une bonne pioche. Ensuite, je vais partir sur l'Afrique pour mon deuxième rapidement aussi. Bah pour Sirak Tesfom, que moi je trouve très très bon, l'un des meilleurs coureurs érythréens qui a 24 ans, 25 ans, qui a en plus énormément de points UCI, quasiment 500 je crois, cinquième du Tour du Rwanda, cinquième de la Tropicale Amissa Bongo, très très bon sur l'Africa Cup en novembre. C'est un coureur qui aura forcément qui aura besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à l'Europe, comme beaucoup de coureurs africains, mais pour moi ça vaut le coup sur un pari en Conti Pro bien sûr de le lancer, et j'espère qu'il aura sa chance à ce niveau-là. Et pour finir, je vais partir sur une pépite colombienne, un mec qui est encore junior, qui était inconnu jusqu'en mai-juin à peu près, enfin, sauf pour ceux qui suivent vraiment énormément et assidûment le cyclisme en Amérique du Sud. Donc c'est John Jairo Alonso qui est arrivé à la Team Inca, qui est une équipe basée dans le sud de la France et qui se spécialise sur les coureurs sud-américains. Il a commencé par faire le défi de Normazamé, une course amateur, il a gagné alors qu'il était encore junior. Ensuite, il fait troisième de la Classique des Alpes Junior, une des plus grosses épreuves du calendrier dans cette catégorie-là, tout en chutant alors qu'il pouvait rattraper le premier dans la dernière descente. Ensuite, il fait 15 du Tour d'Autriche et l'équipe Van Rijssel, qui est la structure junior d'AG2R la mondiale, l'a repéré. D'ailleurs, il les a rejoints là récemment. Ils lui ont fait faire des tests physiques qui sont apparemment exceptionnels. Donc, on parle d'achat-revente. Si des équipes françaises voulaient se positionner, mais dès maintenant, sur ce type de coureur, avant qu'il file chez UAE ou Ineos, je pense que ça pourrait être une très très bonne pioche, même s'il sera E1 l'an prochain et que c'est forcément un risque de signer un mec de 18 ans. Mais je pense qu'il a le potentiel pour briller au plus haut niveau.
Très bien. Théo.
Ouais, ben moi, je vais être un peu plus rapide. Quand on m'a demandé de réfléchir à des bons coups, je me suis dit, ben, il y a toujours des bons coups à faire dans les équipes qui s'arrêtent. Ça fait un peu charognard, mais c'est comme ça. Il y a les Rompot qui s'arrêtent et pas mal de coureurs restent sur le carreau. Mais après, c'est vrai que dans la Rompot, on retrouve toujours le même type de coureurs duromag qui vont dans un collectif, c'est toujours utile. Mais c'est difficile par contre d'en ressortir un. Il y a Van Schip, mais je n'ai pas réussi à voir s'il y avait un contrat ou pas. Et sinon, il y a un coureur qu'on a déjà connu en France, c'est Van Steyen. qui est assez régulier, même si bah, il gagne pas, mais il fait des places, donc c'est un coureur qui récolte quand même pas mal de points. Et il cherche un contrat, j'ai vu qu'il avait fait une interview dans Direct Vélo, et il vient de se blesser en plus, donc bah, pour une équipe française qui voudrait se renforcer, par exemple pour Vital Concept, et qui a besoin de terminer un mercato, bah, ce genre de coureur, c'est quand même une sorte de valeur sûre. Après, il n'a pas forcément laissé un très bon souvenir à la Cofidis, mais voilà, il est... En tout cas, il fait une bonne fin de saison. C'est peut-être la fin de contrat qui le réveille, mais bon, il y a des coureurs dans les équipes françaises qui n'ont pas son niveau. Et sinon, vraiment, le vrai bon coup, qu'une équipe pourrait faire, c'est Michael Schlegel, qui court chez Elkhoff. On l'avait vu chez CCC faire des bons résultats, des top 20 sur le Tour des Alpes. C'est pas exceptionnel, il n'a pas été conservé. Et cette année, il a fait vraiment un mauvais début de saison, mais depuis le Sibiu Cycling Tour, même le Tour of Bior, il s'est réveillé. Et surtout, il m'a tapé dans l'œil parce qu'il a gagné une étape sur le Tour Alsace et il a terminé deuxième. Le Tour Alsace, c'est qu'une 2.2, mais c'est vraiment une course d'un bon niveau. Et en plus, c'est un coureur qui aime bien l'école, d'après ce qu'il dit, l'école assez long, et il trouve pas vraiment l'occasion de briller sur son calendrier. Alors ça pourrait être un bon pari pour une équipe. C'est un grimpeur qui a quand même pas mal, des références correctes, qui a déjà couru un grand tour. Il avait terminé 45e dans le Giro. Voilà, ça ne doit pas coûter très cher. Et si une équipe cherche des grimpeurs, voilà, pourquoi pas se tourner vers lui?
Très bien. Et enfin, Alex?
Ouais, Théo parlait de coureurs à aller chercher dans les équipes qui mettent la clé sous la porte. On ne connaît pas encore le futur de Katusha, Nils Polite, ça reste un bon coup. Alors, est-ce que Quick-Step sera dessus? Ça, on ne sait pas. D'ailleurs, Quick-Step qui devrait au passage prendre Sam Bennett, même si ce n'est pas encore fait. Sinon, moi, un petit coup à faire, ça serait Martin Laas, qu'on connaît bien puisqu'il a évolué il y a quelques saisons chez Delco, qui depuis est chez la team Illuminate et qui cette saison a fait pas mal de placettes, pas mal de victoires également, puisqu'il a fait trois victoires sur le Tour de Corée, quatre sur le Tour de Taïwan, une sur le Tour de Thaïlande, voilà, une deuxième place sur le Tour de Colombie. Je pense pas qu'il doit coûter bien cher et je pense qu'il pourrait apporter pas mal de points à pas mal d'équipes.
Ok. Bon, ben écoutez,
Et toi, Max, est-ce que tu as deux, trois noms à nous donner avant de clôturer?
écoute, je ne sais pas ce que va devenir l'année prochaine l'équipe Amore Vita, qui c'est quand même une sale tradition de récupérer tous les coureurs italiens qui viennent de finir de purger leur suspension, hein, Rabotini, puis Apolonio qui a gagné récemment au Portugal, ça ne s'invente pas, donc sont pareils chez eux. Mais parmi ces coureurs, il y en a quand même deux qui trouvent grâce à mes yeux parce que ils sont réguliers, quelle que soit l'équipe dans laquelle ils étaient, et ils sont plutôt réguliers dans le bon sens du terme, hein, un Pier Paolo Ficcara ou un Marco Tizza, par exemple, qui avait, en début d'année avait eu du mal à trouver un contrat. C'est assez incompréhensible quand on voit qu'ensuite il a remporté, je crois, au moins deux victoires cette année et une foultitude de top 10. Pour des équipes Pro Conti qui sont en mal de résultats, ben voilà, ce sont des coureurs qui permettent facilement d'agripper quelques points par-ci, par-là lorsque la course s'élève un peu. Voilà. Eh bien, écoutez, autant que faire se peut, on a fait le tour de la question. Je vais repasser la parole à Charles pour la fin.
Ouais, juste 30 secondes, je suis désolé, comme on n'a pas du tout parlé des Français, je voulais quand même dire que j'espère que deux, trois coureurs vont passer en Conti Pro. Ben déjà, Pionic cite à juste raison Adrien Guillonnet. Mais moi, j'aurais parlé de Thibaut Ferrat. Je ne sais pas s'il a des touches pour l'an prochain, mais on a quand même vu sur les boucles de la Mayenne que c'était un très bon coureur. Et Jérémy Cabot, qui n'a pas été prolongé l'an dernier, et fait une année exceptionnelle chez les amateurs. Donc, ces trois coureurs-là français, j'espère vraiment qu'ils auront un contrat en Conti Pro, parce que quand on voit certains
Bah, j'ai
effectifs.
mentionné Cabot tout à l'heure, oui, parce que lorsque Théo a parlé de Jérémy, je pensais qu'il allait parler de
Ouais,
Jérémy Cabot.
moi aussi, et ils méritent
Justement.
vraiment pour moi ces trois mecs-là. Au moins, Maxime Rauti aussi fait une super saison amateur. Enfin, il y en a plusieurs qui mériteraient d'aller voir au-dessus, quoi.
Très bien. Bon, eh bien, on essaiera d'être encore plus complet pour la prochaine, qu'on fera probablement, je pense, en octobre, après la fin de la saison classique de vélo, j'imagine, Charles. On fera un bilan plus général sur les transferts. Voilà, on a essayé quand même, à travers les différents thèmes, de couvrir au mieux l'actualité récente et puis de vous avoir donné, j'espère, un tableau à peu près représentatif hein, des mouvements et de ce à quoi ressembleront les équipes l'année prochaine. De toute façon, n'hésitez pas à venir aussi consulter le tableau des transferts qui est fréquemment réactualisé sur le site. Voilà, on se retrouve très bientôt dimanche prochain pour une sortie du dimanche où on reviendra sur la Vuelta. D'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.